BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de BFM Patrimoine. Au sommaire ce matin, l'économie allemande qui est officiellement entrée en récession. Le PIB s'est contracté de 0,3% au premier trimestre, après déjà une contraction le trimestre précédent. L'économiste Philippe Wächter nous apportera son analyse dans quelques minutes. On y reviendra également avec nos invités du débat à partir de 11h tout à l'heure. Est-ce qu'on est vraiment dans un scénario de ralentissement économique en douceur, ou est-ce qu'un décrochage brutal n'est pas exclu? On vous apporte des éléments de réponse. On parlera également du marché immobilier. Il est de plus en plus difficile d'investir en raison de la remontée des taux, mais aussi à cause de la flambée des prix de l'immobilier ces dernières années. Quelles sont les véritables raisons de cette augmentation et est-ce que les prix vont finir par baisser? Christophe Capelli, spécialiste du secteur immobilier, nous apportera son analyse dans un petit quart d'heure. On vous parlera aussi des assemblées générales compliquées pour les compagnies pétrolières. Cette semaine à Londres, celle de Shell a été perturbée par des manifestants en faveur du climat. De quoi donner des sueurs froides à la direction de Total Energy, puisque l'AG se déroulera demain à Paris. Les autres rendez-vous de cette matinée: Nicolas Dos pour la polémique, ce sera à 10h40. On vous parlera de l'envolée des taxes foncières en France. Et puis bien sûr les questions-réponses de Jean-François Fillâtre, ce sera tout à l'heure à partir de 11h45. Soyez les bienvenus. On commence par un point sur l'actualité économique avec Faïza Younzi.
BFM Business, l'info éco.
Bonjour Faïza.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'Allemagne qui est entrée en récession au premier trimestre après une deuxième baisse consécutive de son PIB. Il a reculé de 0,3% par rapport au trimestre précédent. L'activité allemande est plombée par l'industrie, son poumon économique, dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt. En France, le climat des affaires se dégrade de nouveau en mai. L'indicateur de l'INSEE qui sonde l'opinion des chefs d'entreprise baisse pour le troisième mois consécutif et ça se détériore dans l'ensemble des secteurs d'activité. Tension toujours sur le marché de l'emploi des cadres. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter selon l'APEC. Des difficultés qui concernent désormais 60% d'entre elles. Quasiment les deux tiers des entreprises ont augmenté les rémunérations pour attirer les candidats et parfois même elles revoient leurs exigences à la baisse, comme nous l'a expliqué Laetitia Naudot, directrice générale adjointe de l'APEC. C'était ce matin sur le plateau de Good Morning Business.
Des ajustements sur le profil du candidat finalement retenu par rapport au profil initialement recherché. Mmh. Et les entreprises ont été plus aptes à accepter des profils avec des compétences techniques moindres et avec des expériences, des niveaux d'expérience, des années d'expérience moindres. Il y a encore un sujet clairement de préjugés sur le fait que les seniors seraient plus chers à l'embauche, seraient moins adaptés aux évolutions technologiques. Vraiment des préjugés sur lesquels il faut qu'on continue à lutter.
Laetitia Naudot, la directrice générale adjointe de l'APEC. C'est un triple A sous surveillance. L'agence de notation Fitch pourrait dégrader la note des États-Unis faute d'accord sur la dette avant la date butoir du 1er juin prochain. Les négociations sur le relèvement du plafond de cette dette patinent toujours et font trembler les marchés. On est désormais à une semaine d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis. La réplique de la Chine après les accusations des États-Unis. Pékin accuse Washington de désinformation. Les États-Unis ont récemment dénoncé une cyberattaque de grande ampleur. Plusieurs des infrastructures critiques du pays ont été infiltrées par le pirate informatique Volt Typhoon, contrôlé par la Chine. Il a ciblé notamment la base militaire américaine de l'île de Guam. Nvidia surprend avec un chiffre d'affaires bien au-delà des attentes à 7,2 milliards de dollars au premier trimestre. Son bénéfice a progressé de 26% à 2 milliards de dollars. Le leader mondial des processeurs graphiques est dopé par le développement de l'intelligence artificielle et ses ventes devraient continuer à s'envoler à plus de 10 milliards de dollars au prochain trimestre. On termine avec cette grande première dans le monde. Les investissements dans l'énergie solaire devraient dépasser cette année ceux de la production de pétrole, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le solaire devrait capter 380 milliards de dollars de financement. C'est 10 de plus que le pétrole.
Merci beaucoup Faïza Younzi. Prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 11h. Les marchés financiers avec Antoine Larigauderie.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Salut Antoine, en direct du siège d'Euronext. Les nouvelles sont pas bonnes. Quatrième séance de baisse consécutive à Paris et on vient d'ailleurs de casser la barre des 7200 points sur le CAC.
Oui, on est remonté alors légèrement au-dessus à 7217. On est en repli de 0,48%, un repli qui paraît modéré par rapport aux deux séances de forte correction qu'on vient de traverser, qui nous ont plombé et qui ont ramené le CAC 40 sur des plus bas de deux mois. Mais c'est vrai que si vous faites un petit peu la moyenne de tout ce que vient de nous raconter Faïza, entre la récession en Allemagne, la dégradation du climat des affaires en France, sans compter qu'on n'a toujours aucun progrès probant dans le problème du déplafonnement de la dette américaine, il n'y a pas de quoi redevenir positif sur les actions, franchement. Donc c'est une séance de baisse qui nous attendait. Elle est là, moins 0,43% aussi pour le DAX à Francfort. Malgré tout, on a un Eurostock 50 qui surnage, qui gagne 0,01% en ce moment. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a un nom qui est dans toutes les têtes ce matin, c'est Nvidia. Et c'est peut-être une journée historique qui est en train de se dessiner pour le groupe, pour le spécialiste de la puce graphique, effectivement. Tout simplement parce que le groupe a publié hier soir en après-bourse à Wall Street des résultats absolument spectaculaires qui ont pulvérisé les attentes et qui ont provoqué une hausse de 20 à 30% du titre dans les transactions électroniques. Ça veut dire 160 milliards de dollars d'influx positifs d'un coup, de capitalisation boursière en dur. Et cet après-midi à Wall Street, si Nvidia poursuit sur ce chemin, on pourrait assister à la plus forte hausse quotidienne, tout confondu, d'une entreprise américaine en bourse. Bon, à voir, mais la journée va être spectaculaire pour Nvidia qui vraiment est en train de changer de dimension avec ce statut en devenir de leader des processeurs pour l'intelligence artificielle. Donc, du coup, on a un secteur des semi-conducteurs qui est particulièrement actif ce matin en bourse. ST Micro, leader du CAC 40 avec une hausse de 0,92% à 39,67€. On a Soitec en tête des progressions du SBF 120 avec une hausse de 6,3% à 129€. Et puis, du côté de la bourse d'Amsterdam, on a ASM Lithographie, le spécialiste de la microgravure sur puces électroniques, des machines qui s'occupent des puces, qui est en train de flamber d'un peu plus de 5%. Donc du coup, on a ce sentiment positif qui pointe un petit peu à l'horizon et qui soutient un petit peu la tendance. Le secteur tech européen est pas si mal orienté. Regardez, Dassault Systèmes gagne 0,23% à 39,07€. Et puis, on a également OVH qui est parmi les plus fortes hausses du SBF 120, Ubisoft aussi qui se redresse, plus 1,9% à 24,67€. Autrement, bon, ce sont les valeurs cycliques qui trinquent ce matin. L'industrie, Renault, moins 1,5% à 32,24€. On a Saint-Gobain, moins 1,4% à 52,56€. AXA, dans le siège des résultats de Generali, perd 1,4% à 26,78€. Et la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Téléperformance, qui recule de 2,4% à 152,40€. Mention spéciale pour De Richbourg, alors qui plonge de 9,5%. 4,74€. Les résultats trimestriels sont arbitrés très négativement. Le CAC donc moins 0,49%, une baisse certes, mais une petite tentative de stabilisation du côté des 7200 points. L'euro 1 dollar 0,728 avec tous ces mauvais chiffres économiques pour la zone euro. L'euro est en train de faiblir par rapport à la devise américaine.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Dans un instant, on va revenir sur l'entrée en récession de l'économie allemande, mais d'abord notre pépite.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Leader européen des conduites cheminées et des sorties de toits métalliques, on va vous parler ce matin de l'entreprise Pujula. C'est un titre qui se cote 25,70€, 7,5% de baisse encore depuis le début de l'année, mais le titre a déjà repris 9% en l'espace d'un mois. On va voir pourquoi avec Denis Scherrer, directeur associé chez ID Midcap. Bonjour Denis.
Bonjour Stéphane.
Pourquoi c'est une valeur intéressante ?
Alors pourquoi c'est une valeur intéressante ? Parce que Pujula est en fait au cœur de la transition énergétique. Dans le cadre de cette transition, l'idée est donc de réduire le nombre de chaudières au fioul en France. Elles sont d'ailleurs interdites depuis juillet 2022. Et donc les cheminées et les poêles à bois sont une vraie alternative. Et bon, donc si on revient un petit peu à l'historique des cheminées Pujula, cette société familiale qui est basée dans les Deux-Sèvres et qui est dirigée par la famille Coirier depuis 1975, eh bien Pujula est le leader français des conduites cheminées pour les cheminées et les poêles à bois, et c'est également l'un des principaux acteurs du bois de chauffage, c'est-à-dire les granulés et les bûches qui sont donc utilisés dans ces poêles à bois et ces cheminées. et il représente donc un potentiel très important dans le cadre de cette transition énergétique. En plus, depuis l'invasion russe en Ukraine l'an passé et l'explosion des prix de l'énergie qui s'en est suivie, le chauffage au bois est devenu une alternative économique et donc très pertinente. Tous ces éléments qui permettent à Pouloula d'afficher une santé financière remarquable. Si on fait un petit point sur ses dernières performances, le groupe a publié il y a quelques jours son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2022-2023 et ce chiffre d'affaires a bondi de 33% pour dépasser les 400 millions d'euros. Sur deux ans, c'est une progression de 64% pour le chiffre d'affaires de Pouloula, avec à la fois un effet volume et puis un effet prix, avec notamment la forte augmentation des prix des granulés et des bûches de chauffage.
Je le disais, oui, je vous en prie.
Oui, et donc cette explosion, enfin cette forte augmentation du chiffre d'affaires se retrouve également au niveau du résultat, puisque le groupe avait beaucoup investi ces dernières années pour être en capacité à répondre à la demande, et ça devrait se traduire par une marge nette qui devrait avoisiner les 7%, alors qu'elle était inférieure à 3% il y a deux ans.
On est à 25,70 €. Vous avez un objectif de cours à 34 € à quelle échéance ?
C'est un objectif à 6 mois et un objectif qui se base à la fois sur une valorisation qui est assez faible par rapport à l'ensemble de l'univers des sociétés valeur moyenne en France, et c'est également au regard des perspectives de croissance du groupe Pouloula qui sont encore fortes. Même si la croissance devrait ralentir après deux années, je dirais, exceptionnelles, le développement du parc installé de poêles à bois et de cheminées offre des solides perspectives pour les besoins de granulés et de bûches qui devraient continuer à afficher une croissance proche de 20% dans les années à venir, qui devrait permettre à Pouloula d'atteindre rapidement les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le groupe vise même 600 millions à l'horizon 2025-2026.
Merci beaucoup. Denis Scherrer, directeur associé chez ID Midcap. On va parler macroéconomie. Est-ce qu'on risque un atterrissage brutal ou est-ce que le scénario est toujours celui d'un atterrissage en douceur ? Plusieurs chiffres sont publiés aujourd'hui. On va en parler tout de suite.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
D'abord en Allemagne, où l'économie est officiellement entrée en récession. Le PIB s'est contracté de 0,3% au premier trimestre, nettement en dessous de la première estimation qui était de moins 0,1%. On va mettre ce chiffre en perspective avec Philippe Wächter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Le trimestre précédent, on le rappelle, s'était également terminé par une contraction, moins 0,4%. Donc techniquement, ça marque l'entrée en récession de l'économie allemande.
Oui, c'est la référence qu'on a généralement, de voir deux trimestres de baisse du PIB est associé une indication de récession. Ce qui est intéressant dans la dynamique allemande, c'est de voir d'où vient cette fragilité conjoncturelle. Elle est essentiellement liée, voire uniquement liée, à une consommation qui s'est effondrée au dernier trimestre de 2022 et au premier trimestre 2023, alors que dans le même temps, les entreprises avaient tendance à investir de façon significative. Donc on a une perception qui est assez contrasté de l'économie allemande en raison de ce phénomène d'entreprises qui sont plutôt qui restent malgré tout plutôt optimistes, hein, et c'est un peu ce qu'on voyait dans les indicateurs de l'IFO hier, et des ménages qui ne voient pas la fin du tunnel inflationniste.
Philippe, de plus en plus souvent, on fait la différence entre la récession technique, donc on vient d'en parler, ce sont deux trimestres consécutifs où le PIB se contracte, et la véritable récession lorsqu'il y a un impact majeur sur l'économie. Dans quel scénario est-ce qu'on est aujourd'hui ?
Cette idée de distinguer entre récession technique ou vraie récession, c'est un peu du maquillage. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que dans les deux cas, l'activité ralentit. Et ce qu'on observe historiquement, c'est que quand on a une récession, qu'elle soit technique ou véritable, l'activité après cette récession est toujours affectée. Donc le distinguo est un peu fragile. On évoque souvent une récession technique pour dire vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais on est sur quelque chose de préoccupant parce que les ménages ont observé une augmentation de leur pouvoir d'achat avec la baisse des prix de l'énergie en Allemagne, assez significatif. Et pour autant, ils sont restés extrêmement prudents dans leur façon de faire. Est-ce que ça aura une incidence sur l'activité et l'évolution de leur comportement dans le futur? Voilà, c'est une question qui va être importante et qui n'est pas simplement technique.
On aura cet après-midi des chiffres également aux États-Unis, Philippe. Publication du PIB pour le premier trimestre, ce sera la deuxième estimation. La première avait vraiment surpris le marché, hein, 1,1% de croissance, alors que le consensus était à 2%. Là encore, il faudra rester vigilant, attentif.
Oui, il faut pas. On est dans une situation où l'économie américaine est probablement dans une phase d'ajustement. On l'observe sur des questions liées à l'immobilier, sur les investissements des entreprises en bureaux, en malls, etc. Donc il y a une fragilité. Néanmoins, et c'est ça la vraie différence entre les États-Unis et l'Europe, quand on regarde la première estimation et qu'on regarde les données mensuelles, on a des chiffres de consommation qui sont malgré tout plutôt bons et donc qui supportent le cycle économique à court terme. Et c'est une vraie différence entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, les ménages, pas simplement en Allemagne, ont tendance à être très plutôt épargnants que dépensiers. C'est le contraire qui s'observe aux États-Unis, et donc ça fait une vraie différence entre les deux régions. Et la question qui va être posée sur l'économie américaine, c'est est-ce que cette dynamique de consommation va résister ou pas. Pour l'instant, elle tient plutôt bien, et en cela, ça reste positif. La Fed peut encore rester restrictive sans que l'économie ne bascule en récession.
Merci beaucoup pour votre analyse. Philippe Wächter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Il est 10h18, on va parler immobilier.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Investir dans le secteur immobilier coûte évidemment de plus en plus cher à cause de la remontée des taux, mais pas uniquement. Les prix de l'immobilier en France ont nettement progressé au cours de ces dernières années. On va en parler dans un instant avec Christophe Capelli. Bonjour.
Bonjour.
PDG de Capelli, promoteur immobilier européen. Vous êtes présent en France, en Suisse, au Luxembourg également. Évidemment, quand on parle d'immobilier, Marie-Cœur de Roy n'est jamais très loin. Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane.
Et avec vous, on va parler de la crise du logement neuf avec les derniers chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers qui sont en train d'être publiés en ce moment. Et quand on parle de crise, c'est pas un euphémisme.
Non, pas du tout. C'est de pire en pire. Alors, je pense que Christophe va particulièrement bien m'écouter. Sur les ventes, d'abord, au premier trimestre, les promoteurs nous annoncent une baisse globale de près de 35%. 35% de moins sur un an. On est à peine à 21 000 logements réservés sur les trois premiers mois de l'année. Dit comme ça, vous allez me dire, oh, 21 000. Ouais, enfin, c'est un plus bas qu'on n'avait pas atteint depuis au moins 10 ans. Le pire reste aujourd'hui les ventes aux particuliers, celles aux propriétaires occupants, donc ceux qui achètent pour habiter dans le logement. Et ben, ces ventes-là, elles reculent de plus de 30% sur un an. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est les ventes aux investisseurs, ceux qui achètent pour mettre en location. Là, la baisse, elle est de 52% sur un an. En fait, on est sur un effondrement historique. La Fédération des promoteurs rappelle d'ailleurs que jusqu'à présent, les achats des particuliers, ils se partageaient de manière quasi équivalente. C'était 50-50 entre les propriétaires occupants et les investisseurs. Sauf que dorénavant, vous avez 66% de propriétaires occupants et donc le reste d'investisseurs. En fait, c'est un problème parce que, en réalité, du côté des des acheteurs particuliers, ce sont les investisseurs qui contribuent majoritairement à réussir à faire financer le projet immobilier parce que ce sont eux qui se positionnent le plus en amont dans les préventes des promoteurs. Donc c'est un vrai problème. Du côté des ventes en bloc, alors attention, c'est un ralentissement de la baisse en trompe-l'œil. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais on est sur une baisse. Donc les ventes en bloc, ça va être les ventes aux grands investisseurs, aux bailleurs sociaux. On est en recul que de 8% sur un an, mais la Fédération des promoteurs n'est pas dupe et rappelle que le premier trimestre 2022 avait été particulièrement mauvais aussi.
Alors on a un effondrement à cause des problèmes de financement, et ça on en parle souvent ici, mais il y a aussi un problème d'offre, tout simplement, avec... un lancement insuffisant de nouveaux programmes.
Ben oui, en fait, je vous rappelle, il y a quoi, 2 semaines, le patron de la Caisse des dépôts était sur notre antenne et parlait sur le logement neuf de crise parfaite. Parfaite dans le sens où rien ne va, en fait. Et effectivement, on a un vrai problème. On est sur des mises en vente qui reculent de 25% sur un an, niveau qu'on n'avait jamais atteint par la Fédération des promoteurs depuis au moins 2010. Je dis au moins 2010, parce qu'en fait, la Fédération des promoteurs rappelle que 2010, en fait, c'est le lancement de l'Observatoire. Donc, c'est depuis au moins le lancement de l'Observatoire de la Fédé des promoteurs qu'on n'avait pas atteint un tel niveau de faiblesse. Il est même encore plus bas ce niveau de mise en vente que ce qu'on avait connu au pire moment du Covid, c'est-à-dire premier trimestre 2020. En fait, on est sur un cercle vicieux entre cette demande non finançable et puis la baisse des permis de construire qui est liée, évidemment, je ne vais pas refaire tout le sketch, aux politiques locales, à la lutte contre l'artificialisation des sols. Tout ça, ça plombe les projets des promoteurs à ce point que désormais, donc c'est la Fédé des promoteurs qui nous le dit, un projet, un programme sur 5 est purement et simplement abandonné par les promoteurs. C'est un drame quand on sait que les besoins ont été estimés récemment justement par la Fédé des promoteurs à 450 000 logements nécessaires à la construction chaque année pour répondre aux besoins des ménages. Quant au prix, bah là je vous le rappelle, on est toujours sur une hausse, c'est pas comme l'ancien, et Dieu sait que l'ancien ne baisse pas suffisamment, mais enfin bon bref, le neuf monte encore, on est quasiment en hausse de 6% sur un an. Je vous répète pourquoi c'est pas possible que les prix baissent dans le neuf, on le répète assez régulièrement, les coûts de construction, la cherté du foncier, évidemment ça reste la base. Les promoteurs veulent, légitimement ou pas, vous me le direz, mais répercuter sur leur prix de sortie la hausse de leurs propres coûts. Le fait est que même s'ils voulaient vendre à perte, ils ne le pourraient pas. Je le rappelle, derrière, vous avez des banques pour financer des projets. Et les banques, elles ne veulent pas financer un projet qu'elles considéreraient comme trop fragile ou en tout cas mettant en péril la santé financière du promoteur.
On va parler des facteurs justement qui font grimper les prix avec Christophe Capelli, PDG de Capelli, promoteur immobilier européen. Christophe, peut-être une réaction d'abord à ce que disait Marie. C'est la crise parfaite, selon vous, pour reprendre les propos du patron de la Caisse des dépôts?
Alors, le terme est très juste. Moi, j'appelle ça la crise combo. C'est-à-dire qu'on cumule tout en même temps. Donc, j'ai un peu de mal avec le mot parfait dans ces conditions-là. Mais donc, c'est pour ça que je l'appelle
combo. C'est le mauvais alignement des planètes.
Mais c'est le très mauvais alignement des planètes. En fait, ça fait des années qu'on a un effet un peu lancinant. C'est un peu comme un début de rage de dents. On sait que ça fait déjà 4 ans que les promoteurs ont du mal à sortir les permis. 2018-2019, c'était la veille des élections municipales. Il y a eu les différés des élections municipales, donc encore différé d'un an, donc les permis ne sortaient pas. Là, c'est assez amusant, mes collaborateurs commencent à m'expliquer que les élus leur reparlent maintenant des élections 2026. Donc on se dit, tiens, on pensait avoir fini dans cette roue tournée comme un hamster, mais en fait non, c'est sympa, il y en a un qui a trouvé quelque chose et puis on va continuer à faire des tours. Et puis vous avez l'effet explosion des coûts des travaux l'année dernière, puisque le coût des travaux a augmenté de plus de 30% dans l'année. Et j'étais hier, par exemple, avec mes équipes du Luxembourg, les pilotes, donc les gens qui gèrent un peu nos chantiers ou en tout cas qui nous font des estimatifs, en fin d'année, par rapport au début d'année, étaient à plus 52%. M'expliquer comment un chantier peut passer de 10 millions à 15 millions du jour en main. C'est impossible.
Alors nous, on avait fait... Oui, ça, c'est des ratios qu'on connaît généralement dans les travaux publics, mais pas forcément dans l'immobilier résidentiel.
Vous ne pouvez pas trouver plus 52% d'augmentation dans un an. On l'avait évoqué une fois avec Marie, c'est l'Ukraine, c'était devenu le centre du monde à un moment donné. Les matières premières, tout avait explosé. C'est d'ailleurs, nous, le choix qu'on a fait l'année dernière, c'est que... Comme on n'arrivait plus à un moment donné à lancer nos opérations dans des budgets qui étaient cohérents, on a décidé de différer quasiment un tiers de nos opérations.
C'est ça, c'est les chantiers abandonnés, quoi.
C'est les chantiers suspendus. Alors nous, on les a pas abandonnés, on les a suspendus parce qu'on a eu une chance, par contre, nous, dans notre malheur, c'est que 80% de mon activité, je vends en bloc à des institutionnels. Donc j'ai pu aller les voir et leur dire, voilà, soit je vous augmente de 10% le prix.
Soit on attend un peu.
Ils m'ont dit, Christophe, on t'adore.
Mais non.
Non. Donc j'ai dit, on attend au moins que les prix rebaissent. Et aujourd'hui, ce qui est indéniable, et ça va nous aider par contre pour nos prix de vente et nos prix de sortie, on est revenu au prix de travaux de fin 21. Donc on est revenu sur les coûts d'il y a à peu près un an et demi.
Le prix de l'immobilier a fortement augmenté, hein, je le disais tout à l'heure en introduction. Selon l'INSEE, c'est 22% de hausse en moyenne en France entre 2010 et 2020. Parmi les facteurs de hausse, vous avez évoqué le prix des matériaux, il y a aussi les réglementations environnementales. Ça va devenir le principal facteur de hausse ?
Oui, alors je préciserai que sur les 22%, je pense que ça inclut tout le territoire national. Quand vous prenez des zones à forte tension...
On est d'accord.
C'est bien pire.
C'est bien pire parce que,
entre 2010 et 2020, Paris n'a pas pris que 22%.
Voilà. À mon avis, c'est l'équivalent de 3 ans, 4 ans. Il y a eu des explosions qui étaient disproportionnées. Et le problème, en fait, était lié notamment au foncier. Impossible de trouver foncier. Quand vous trouvez du foncier, que vous allez dans une mairie présenter votre permis, on vous sabre un étage. Alors, nombre de fois, on en discute avec Marie, c'est une situation quand même qui est compliquée. Vous avez prévu... En fait, je comprends les élus, parce qu'ils ont peur du permis de construire, parce qu'ils ont peur, à un moment donné, de la réaction de leurs administrés. Moi, j'ai proposé quelque chose de simple, c'est le principe de la sanction. À l'époque, quand on avait la loi SRU, il fallait 20-25% de logements sociaux. Les maires n'en voulaient pas parce qu'ils avaient peur des réactions de leurs administrés. Aujourd'hui, il y a tellement une sanction qu'ils ont été obligés de l'intégrer. Dédouanons le maire.
Je suis complètement d'accord avec Christophe. Moi, je suis pour qu'on. Et en plus, juste petite parenthèse sur la loi SRU, ce qui est assez dingue, c'est que moi, j'ai eu vent de ces histoires-là. C'est que vous avez des maires qui ne veulent pas justement dire à leurs électeurs, je vais faire du logement social, mais qui sont obligés de le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se vendent eux-mêmes au pouvoir public en disant, bon, je sais que je suis pas dans les clous, je respecte pas les quotas, mais impose-toi à moi. Donc, viens. Emmène-moi le préfet pour qu'il signe le permis de construire à ma place pour que je respecte les quotas. Comme ça, moi, je dirai à mes élus que j'y suis pour rien, à mes électeurs que je n'y suis pour rien, mais en même temps, je respecterai finalement les quotas. Donc, il y a un vrai sujet sur... Ils veulent garder la main, et c'est légitime, les maires, pour pouvoir construire et décider de la manière dont ils vont aménager leur territoire. On veut bien l'entendre, mais à un moment donné, la corrélation est telle entre leur carrière politique et les besoins que si on peut aussi les soulager par moment, moi, je suis complètement d'accord avec ça.
Mais pour les maires, il y a aussi des injonctions complètement contradictoires. Il faut pas artificialiser davantage les sols, donc la solution ce serait de construire en hauteur, mais vous venez de le dire, quand vous construisez en hauteur on vous enlève des étages.
Oui, c'est pour ça que je reviens sur le combo. Vous avez des autorisations qui peinent à sortir, vous avez un coût de travaux qui avait explosé, alors maintenant qui commence à être régulé, vous avez l'explosion des taux d'intérêt qui fait que globalement un client a perdu 15 à 17% en fait, de capacité d'achat, et puis vous avez ce petit élément extraordinaire qui est le ZAN.
C'était le zéro artificialisation net
qui va arriver. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, on ne pourra plus construire
que sur l'existant.
Exactement. Mais si vous construisez sur l'existant, ça veut dire que vous êtes obligé de raser typiquement des bâtisses existantes qui ont elles-mêmes une valeur. Mais alors, vous allez chercher où la réduction du prix de 15% pour rendre solvable le client ? Parce que, très gentiment, Monsieur le Président a dit qu'en fait, on devait se débrouiller la semaine dernière. Il n'a pas tort. On demande de l'aide, mais on nous explique que ça coûte. Mais d'un côté, on rapporte 60 ou 70 milliards. Ça coûte 20 de l'autre côté, ça crée de l'emploi. Ça fait toujours un delta de 50 quand on fait les calculs. Mais admettons que ça coûte. Si on doit réguler et revenir donc à le principe de la solvabilité, c'est-à-dire que j'enlève 15 à 17% à mes prix de vente. Je vais les chercher où ces 15 à 17%? C'est impossible. Les coûts de travaux, la RE20 est arrivée. Réglementation environnementale. Elle coûte plus cher. Aujourd'hui, on commence à nous demander du 25, voire du 28. Alors, personne ne sait à quoi ressemble le 28, mais on nous le demande quand même. Mais ça n'empêche que, c'est-à-dire que les coûts sont en train de, quoi qu'il en soit, vont augmenter, non pas par le coût des matières premières elles-mêmes, mais parce qu'on nous demande plus. Le foncier va rester tout aussi rare, parce qu'on n'a pas le droit de construire maintenant dans des champs.
Et ce qui est rare est cher.
Non, c'est intéressant.
Une dernière question, mais rapidement, parce qu'on est en train de prendre du retard, mais les acteurs de l'immobilier qui réclament des puissantes mesures face à la crise du logement qui est en train de s'installer, par exemple.
Dans les puissantes mesures ?
Oui.
Déjà, il y a l'histoire du Pinel, puisqu'il est dit qu'il disparaîtrait. Donc,
maintenir le Pinel, ça
maintenir
c'est une proposition.
Maintenir le prêt à taux zéro pour les clients.
Peut-être l'élargir ?
En fait, il faut à un moment donné permettre aux gens de devenir propriétaires. On reproche à un moment donné aux promoteurs de céder entre guillemets aux sirènes du Pinel et de l'investisseur. bah, rendons le primo-accédant propriétaire. Mais pour le rendre propriétaire, aujourd'hui, on est dans une France où il n'y a pas énormément d'apports. La vie coûte plus cher, il faut les aider.
Merci beaucoup, Christophe Capelli, PDG de Capelli, promoteur immobilier européen. Merci beaucoup à vous, Marie Cœur de Roy. D'ailleurs, je vous invite à écouter régulièrement Marie sur notre antenne, parce que tous les sujets qu'on vient d'aborder, ça fait longtemps qu'elle les met en avant et qu'elle nous alerte justement sur cette crise qui se dessine dans le secteur immobilier. Dans un instant, le match des traders, Alexandre Baradez, responsable de la stratégie de marché chez IG, et Jean-Louis Cussac, regardez, il est prêt, il nous attend, trader formateur chez Perceval. A tout de suite, Jean-Louis.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
Il est 10h33, on est un petit peu en retard. On va s'intéresser à cette séance en cours à la Bourse de Paris. Quatrième séance de baisse consécutive. On va la commenter dans un instant avec Jean-Louis Cussac de Perceval. Mais d'abord Alexandre Baradez, responsable de la stratégie de marché chez IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Est-ce que les choses ne sont pas en train de s'accélérer sur les marchés actions? Ils ont plutôt bien résisté, mais là on voit que depuis quelques jours à Paris, il y a des niveaux qui sont en train de casser les uns après les autres.
C'est ce qui ressemble à de la consolidation en fait. Quand on regarde la structure du CAC 40 depuis quelques mois, donc on avait le gros rallye depuis le début de l'année, puis un avertissement sévère en mars sur le stress bancaire où on avait lâché à peu près 8 à 9%. On repart dans la zone des 7006 et puis à nouveau là on relâche dans la zone des 7002. Et ça ressemble à un écho en fait de ce qu'on a eu au mois de mars pour des motifs différents cette fois-ci. Là, les motifs, c'est le plafond de la dette, c'est des taux américains qui continuent de se redresser. Ça, c'est un élément qui fait aussi que côté États-Unis, on a des tendances qui sont assez faiblardes et une volatilité qui remontait aux alentours de 20. Le VIX a même refait une incursion au-dessus de 20 ces dernières heures. Donc c'est cet effet cumulé en fait du stress sur le plafond de la dette, des taux qui se redressent parce qu'il y a à la fois un effet sur la partie très courte des taux du plafond de la dette, et puis un effet aussi de cette inflation qui est toujours collante et où on attend des signaux d'amélioration, et donc ça lift à la fois les taux courts, 6 mois, 1 an, mais aussi des taux un peu moins courts, comme le 2 ans par exemple. Donc voilà, on a toujours ce vent contraire qui s'opère, mais je pense quand même que dans la structure du mouvement qu'on a actuellement, c'est à classer dans la catégorie consolidation, mais consolidation, même si vous corrigez de 4 ou 5%, si la fois d'avant c'est en mars, vous avez fait moins 8, moins 9, et là, vous refaites à nouveau entre moins 5 et moins 8, par exemple. C'est beaucoup par rapport au sommet de 7006, mais dans la structure de plusieurs mois, ça vous donne une allure qui est un peu plus latérale, un peu moins haussière. Et c'est ça la définition d'une consolidation. Hein. Elle peut être ample avec des mouvements de 8-9% qu'on répète une, deux ou trois fois, par exemple. Donc, je pense qu'on en est là. Alors, le risque à ce stade, c'est quoi? Nous, la semaine dernière, on avait proposé d'être vendeur sous 7350 pour chercher une oblique. Il y a une oblique support qui passe par des plus bas d'il y a quelques mois à 7002. Donc, on y est ce matin. Donc, c'est un premier support, un niveau technique, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un support, mais c'est un premier niveau technique touché. Donc, ce qui est un peu défensif, c'est quand même un niveau où il faut faire un petit peu attention. Mais en revanche, moi, pour être optimiste CAC, je le suis toujours à moyen terme, mais je pense quand même qu'il faut attendre des signaux de redémarrage. C'est-à-dire dire, sauf en tant qu'investisseur, dire j'achète le creux à 7002, oui, ça c'est une bonne stratégie sur un horizon de 8, 9 ou 10 mois, mais dire là actuellement j'achète le 7002 en étant certain qu'on n'ira pas à 7100 ou 7000, ça personne n'en sait rien, et je trouve qu'à ce stade du coup c'est un peu le risque. C'est un peu le risque à ce stade, c'est de passer sous ce support oblique, et ensuite les premiers niveaux de support technique importants, bah, c'est les plus bas de mars en fait, hein, c'est des zones 7000 et un peu en dessous. Donc voilà, je trouve qu'il y a toujours ce risque qu'on pourrait aller chercher sur évidemment un stress plus intense au plafond de la dette, sur des taux qui se redressent plus fortement. Voilà, c'est le genre de niveau qu'on peut aller chercher, et par contre je n'ai pas de scénario extraordinairement défensif. Je pense que un retour, si ça se faisait dans une des 7000 ou 6009, ce serait un peu le cas extrême quand même. Voilà, je pense pas qu'il y ait de quoi aller chercher beaucoup beaucoup plus bas ensuite, parce que je pense toujours qu'on est dans la consolidation avant retour à 7006, accélération peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, mais de la consolidation et pas de retournement de marché.
Jean-Louis Cussac est également avec nous. Quel est votre sentiment, Jean-Louis, chez Perceval? En quelques mots, on aura plus de temps pour en parler tout à l'heure à 11h30.
Alors, depuis 7380, en effet, on a perdu ce qu'on avait, c'est-à-dire un maximum de probabilité de rebondir. On est passé sous 7220, on a neutralisé. Donc, on se retrouve avec une divergence entre le long terme, qui reste quand même acheteur, et le court terme, qui est neutralisé. Voilà. Donc, l'idée, quand même, c'était quoi au départ? Des retracements de 3,5-4% sont des occasions d'acheter dans une perspective long terme. Mais là, c'est freiné par les nombreuses raisons qui ne manquent pas, hein, de baisser. hier en plus les chiffres d'inflation en Grande-Bretagne et donc évidemment le plafond de la dette, etc. Donc il y a une hyper prudence, il y a peu de densité, beaucoup de gestion indicielle. Donc il faut prendre un petit peu de recul, faut pas se précipiter à quoi que ce soit. Il faudrait jouer des signaux techniques, passer par des options. Enfin voilà, c'est pas une phase où je peux dire j'achète là ou je vends là. Non, c'est il faut vraiment travailler des opportunités. Regardez, on a baissé fort, là on est en train de remonter fort. C'est un peu violent. Il faut pas, il y a pas, si vous voulez, d'évidence intraday ou court terme pour entrer dans ce marché. On va dire qu'on est neutralisé. Et l'idée du fond, du long terme, c'est achat sur repli possible avec la chasse aux bonnes valeurs. Pourquoi pas LVMH, qui a quand même perdu 9%, pratiquement 10%. C'est une occasion d'acheter, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu. Attention, hein, tout doucement. On commence à acheter dans cette zone, dans une perspective uniquement long terme.
Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval. On se retrouve donc tout à l'heure à 11h30. Et merci également à Alexandre Baradez, responsable de la stratégie de marché chez IG. 10h38, la polémique.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose nous a rejoint en plateau. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Si je vous dis 52% à Paris, 25% à Grenoble, je suis...
Un propriétaire immobilier qui va payer la taxe foncière 2023.
Bien, bonne réponse. Bah justement, on va en parler parce qu'ils sont en colère, les propriétaires immobiliers. L'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, dénonce sur BFM TV les fortes hausses de taxes foncières qui fait des propriétaires l'éternelle variable d'ajustement.
Ouais, et ben, il y a vraiment des records cette année. Vous avez donné les chiffres waouh. 52% en 2023 à Paris, 25% à Grenoble, 24% à Metz, 17% à Mulhouse, 9% à Lyon. Et ça, ce sont les décisions locales de hausse de taxes foncières. À ça, vous ajoutez la hausse mécanique qui est liée à l'inflation, qui tire évidemment vers le haut les valeurs cadastrales locatives. Bon, ça, on connaît. Ça fait que, à Paris, on va être dans les 60%. Enfin, ce sont des montants absolument astronomiques. Et ben, la douloureuse, c'est pour le mois d'octobre, mais on est d'ores et déjà prévenu que ça va être salé cette année.
Mais comment on justifie des hausses aussi importantes?
Il y a trois éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, il y a un mécanisme automatique d'indexation, finalement, des valeurs locatives cadastrales sur l'inflation, ce qui nous avait fait du plus 3,2%. 3,4% en 2022 et fera du plus 7,1% en 2023. Ensuite, il y a les choix des communes, les choix des collectivités. Il faut bien reconnaître que quand on se met à la place d'un maire, c'est le dernier gros outil fiscal, gros levier fiscal dont il dispose, depuis que la taxe d'habitation a disparu. Qui est la tentation de se refaire un petit peu avec la taxe foncière, maintenant qu'il n'y a plus la taxe d'habitation, c'est effectivement tout à fait crédible. Mais il faut bien voir qu'il n'y a pas beaucoup de gros outils fiscaux. Oui, effectivement, il y a les impôts de production, la CFE payée par les entreprises, mais taxe foncière payée par les entreprises et les ménages, c'est une facture annuelle de 43-45 milliards d'euros. Hein. C'est quand même le levier fiscal absolument par excellence pour les collectivités. Et puis ensuite, dans cette taxe professionnelle, apparaissent d'autres petites taxes qui, elles aussi, ont tendance à augmenter d'année en année. Vous avez la TEOM, hein, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez la GEMAPI, qui est une taxe qui a été mise en place pour participer au financement de la lutte contre les inondations. Vous avez la taxe abris de jardin qui s'impose sur tous les abris de jardin de plus de 5 mètres carrés depuis 2012. Et alors on demande au maire, mais attendez, comment c'est possible? Prenez le maire LR de Metz, François Grosdidier. Et il explique que c'est le seul moyen qu'il a pour avoir des comptes à l'équilibre. Et là, il y a quelque chose qui est vrai. Une collectivité n'a pas le droit légalement de financer sa vie quotidienne, ses frais de fonctionnement par de l'emprunt.
Bref, elles peuvent aussi faire des économies. Hein.
Oui, d'accord. Mais effectivement, vous êtes obligé d'équilibrer vos comptes sur les frais de fonctionnement. La dette n'est pas permise pour une collectivité et il y a eu des frais supplémentaires en 2022, c'est absolument évident. C'est par exemple ce qui explique le maire de l'Aïe-les-Roses dans les Hauts-de-Seine, plus 30%. Le maire, c'est un UDI, Laurent Vastel. Écoutez, moi, je suis quand même devant une impasse complète parce que j'ai eu 2 millions d'euros à payer en plus sur l'énergie en 2022. Il faut bien que je trouve l'argent quelque part. On demande au maire adjoint de Grenoble, alors c'est un Europe Écologie Les Verts, eux, ils ont des préoccupations. Non, c'est le, l'adjoint, c'est Vincent Fristo. Il dit, ben voilà, écoutez, nous, on est dans un grand mouvement de végétalisation, on plante des arbres, on retire le bitume devant les écoles. Eh ben, tout ça, ça demande de l'argent, et ben, il faut, hein, on n'a pas d'autre solution. Alors, le propriétaire, lui, il a de plus en plus le sentiment d'être une vache à lait, et il a raison. Il est une vache à lait. Surtout que le locataire a été libéré avec la fin de la taxe d'habitation, donc il reste plus que c'est le propriétaire, c'est le principal contributeur local.
Mais pourquoi c'est la cible fiscale parfaite, le propriétaire, Nicolas?
Avant, juste, c'est de rappeler que il y a la taxe foncière, mais quand on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires mis bout à bout qui frappent la pierre, c'est pratiquement l'un des secteurs les plus taxés de France. On est à 90 milliards d'euros de recettes. Alors effectivement, vous le dites, le propriétaire, c'est la taxe, c'est la cible fiscale par excellence. D'abord, vous lui faites de la fiscalité locale, c'est du tout bon pour le gouvernement, ça évite d'augmenter la fiscalité nationale d'une certaine manière. Et en fait, ça refile le bébé aux collectivités. Ensuite, le propriétaire, dans cette espèce de vision un peu pavlovienne, un peu médiatique aussi, un peu non réfléchi, c'est un riche. Et taper sur un riche, on se dit que politiquement, c'est jamais trop risqué, plutôt que de faire le contraire. Après, il est assez rare de voir un propriétaire qui part avec sa baraque à l'étranger. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué, donc il n'est pas délocalisable, le propriétaire. Il est là, il est bel et bien là. C'est pareil pour la facture verte. Le propriétaire, il a un logement qui, malheureusement, est un logement ancien. Ah, il est noté F, il est noté G. Imaginez qu'ils veulent le louer. Il est obligé de payer les rénovations. La facture moyenne d'une rénovation, c'est 35 000 euros quand même. Ah, il va payer la rénovation, super, il n'est plus F et G. Mais comme, du coup, son bien a été embelli, un bien qui a été embelli est un bien dont la valeur locative augmente, et donc sa taxe foncière va augmenter. Allez, bam, bam, les peines à tous les niveaux. Et on peut dire la même chose, c'est vous qui me le faisiez remarquer. Les valeurs cadastrales, 7,1% en 2023, d'accord. Mais quand vous êtes dans un endroit où les loyers sont encadrés, est basé sur l'IRL, l'indice de référence des loyers, qui n'augmente pas autant.
3,5% cette
année. Qui n'augmente pas autant que la valeur cadastrale. Eh ben voilà, une nouvelle fois, vous êtes mis à contribution. Oui, oui, effectivement, le propriétaire, c'est la vache à lait.
Angélique de Longuesin nous a rejoint. Il est remonté, hein, Nicolas Dose.
Ah, non, mais c'est objectif, voilà, c'est comme ça.
Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Dose. La polémique tous les matins. Là, pour le coup, ça fait vraiment polémique, hein, ce matin. Vous aimez le vin, Nicolas?
Ah oui.
Alors, le millésime 2022 s'annonce exceptionnel à Bordeaux. Restez avec nous.
Absolument.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
On va parler investissement, on va parler évidemment du vin avec Angélique de Longuesin, directrice générale déléguée de Ideal Wine. Bonjour Angélique.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors vous avez eu cette chance, vous avez participé aux dégustations du primeur, du millésime 2022 de Bordeaux. Vous confirmez, ça s'annonce exceptionnel?
Apparemment, effectivement, Bordeaux a produit l'une de ses plus grandes années. Hein, si je me réfère à un grand dégustateur qui est Michel Bétane, qui est celui qui a quand même découvert et révélé au monde le millésime 1982. Il a dit qu'en 45 ans de suivi très attentif de ce vignoble, en fait, il n'a pas vu de plus beau millésime. Donc les propriétaires semblent être au diapason de cette déclaration. Donc effectivement, très belle année.
Ça a été une année caniculaire. Ça, c'est un facteur important pour avoir un raisin de très bonne qualité.
Alors,
il est concentré. Qu'est-ce qui se passe?
Ça a été une année qui, pourtant, sur le plan de la climatologie, n'a pas été
gagné,
de tout repos. Hein. Ça n'a pas été une année chaise longue comme avait pu l'être, je ne sais pas, 2010, par exemple. Ça a commencé par un hiver extrêmement rigoureux qui, d'une certaine manière, a préparé la vigne à des conditions extrêmes. Ensuite, on a eu un printemps maussade, frais, avec un peu de gel. Et puis, tout s'est retourné à partir du mois de mai, avec quelques pics de chaleur qui ont été enregistrés avec des plus de 40 degrés en mai, en juin, avant cet été caniculaire dont vous vous souvenez. Donc, des conditions assez extrêmes. Et ça a été un des points très intéressants pour nous lors de nos visites de dégustation dans le vignoble. Ça a été de comprendre et de cerner la créativité dont ont fait preuve les équipes techniques pour s'adapter à ces conditions extrêmes, en termes de taille, pour créer des couloirs de fraîcheur dans la vigne, en termes de semis de plantes entre les rangs de vignes pour doper l'énergie de la vigne avec du trèfle, des plantes comme de la moutarde, de la vesse qui ont redonné de l'azote et qui ont permis de décompacter les sols, ou encore une sorte de crème solaire en pulvérisant de l'argile sur les feuilles pour contrer les effets de la chaleur. Donc vraiment beaucoup de créativité.
Parmi les effets de la chaleur, on entend souvent que le vin est plus puissant, plus alcoolisé, c'est vrai?
Alors, effectivement, le degré d'alcool qui est, et la puissance qui en résulte dans les vins, en fait, se joue à plusieurs niveaux, à la fois dans la vigne et dans les chais. Hein, dans la vigne, on a parlé donc de la chaleur, mais il y a aussi la date de vendange qui est vraiment cruciale. Cette année, il fallait vraiment vendanger à très juste maturité pour éviter le caractère compoté, confituré, qui est la marque des millésimes chauds. Et là, il y a eu six semaines de très beau temps qui ont permis vraiment aux équipes de bien gérer la juste maturité. Donc ça, c'est dans la vigne. Au chai, il a fallu, étant donné l'opulence de la récolte, il a fallu avoir la pédale douce sur l'extraction de la matière pour pas qu'elle soit trop puissante. Et puis enfin, il y a l'élevage des vins. Donc il y a toujours du bois neuf, mais cette année, on a senti que la proportion a beaucoup diminué. On a vu apparaître dans les chais des contenants plus exotiques, qui avaient paru très exotiques quand le château Pontécanet les avait introduits, comme les amphores, qui apportent une beaucoup de fraîcheur, un toucher beaucoup plus frais et qui vient bien compenser et compléter d'ailleurs l'apport du bois.
Donc si j'ai bien compris votre message, le résultat c'est un grand, peut-être même un immense millésime.
À condition d'avoir effectivement bien géré et d'avoir suivi l'évolution de la vigne comme le lait sur le feu. C'est vrai que ça a permis de très très grandes réussites au point que certaines propriétés comme Château Cheval Blanc ont décidé de ne pas produire de second vin, de garder l'essentiel dans le grand vin. Pareil à Figeac qui aura très peu de son second vin, de son petit Figeac.
Est-ce qu'il faut investir dans ce millésime? Si je vous ai bien compris, la réponse est oui.
Alors la question est effectivement sur toutes les lèvres. C'est vrai que nous, chez Ideal Wine, en fait, nous achetons des primeurs depuis plus de 15 ans, mais nous les revendons en primeurs seulement depuis l'année dernière. Donc, par rapport à 2021, c'est vrai que 2022 suscite beaucoup de questions, beaucoup de demandes, et c'est très positif. Pour autant, on sent que la dynamique de la campagne n'a pas encore réellement démarré.
Et ce sera à quel prix? Parce que là, on parle d'une inflation qui va faire très très mal dans les... dans les chais et dans les vignes.
Alors justement, c'est lié pour certaines propriétés, pas pour toutes, à des questions de rendement. Quand les rendements sont plus faibles, on a tendance à vouloir augmenter les prix. Donc on a annoncé des hausses, on a vu des hausses d'ailleurs de 20 ou de plus de 30%. Et ça, c'est vrai que ça passe difficilement au niveau du marché. Parce qu'en période, à une période, et ça on le constate nous sur le marché secondaire des enchères, hein, sur Ideal Wine, avec la remontée des taux d'intérêt, les investisseurs retrouvent une alternative à ce placement que pouvait constituer le vin. Donc effectivement, le prix va être déterminant.
Alors, on va préparer nos achats quand même. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner, une appellation, un cépage en particulier?
Il n'y a pas vraiment d'appellation qui se détache, qui se distingue. On a constaté, c'était d'ailleurs très agréable, hein, la dégustation des vins qui étaient avec un fruit extrêmement pur, concentré, des textures qui alliaient le caractère gourmand et velouté d'un tiramisu au côté crissant d'une soie sauvage. Donc on a des très très beaux vins un petit peu partout. En termes de cépage, le Cabernet Sauvignon était en pleine gloire cette année. Le Cabernet Franc, qui était l'atout fraîcheur de la rive droite, lui finalement il a été un petit peu éclipsé par les Merlots qui ont été absolument magnifiques. Donc il y a des réussites un petit peu partout.
Ça va être difficile de choisir, c'est ça?
C'est plutôt un bon problème.
Oui.
C'est plutôt un bon problème. Nous, alors, il faut vraiment suivre de très près les dégustateurs professionnels et les guides qui ont suivi de très près toutes ces sorties. Nous, chez Ideal Wine, en fait, on publie nos coups de cœur. Hein. Donc, on en a eu beaucoup, notamment à Saint-Émilion. J'ai parlé de Cheval Blanc et Figeac, qui sont de très grandes réussites, mais il y a eu aussi Canon, Château Canon, Larcisse Ducasse, Pavimac, Trolondo, ou aussi Larocque et Clos Fourtet, bien sûr, sans oublier Ferrand, qui ont été vraiment très réussis. À Pomerol, toujours sur la rive droite, Le Pin et La Conseillante ont produit vraiment d'éblouissants 2022.
Et rive gauche, dans le Médoc, les réussites sont aussi nombreuses?
Alors, les réussites sont très liées à la qualité des très petits grains de Cabernet Franc qui ont été absolument somptueux cette année et qui ont donné un caractère très frais, racé et élégant au vin. vin. Donc Château Lafite Rothschild en est vraiment l'illustration. On a beaucoup aimé aussi le caractère très concentré de Pichon Baron, la complexité aromatique de Lingebage ou encore le côté vraiment envoûtant de Pontécané. À Saint-Estèphe, la minéralité de Causse d'Estournel, l'énergie de Félan-Ségur ou de Château-Meynet ont été vraiment très impressionnantes aussi. Et puis à Pessac-Léognan, il y a une très jolie variété avec de la gourmandise à Domaine de Chevalier, le caractère très, la pâte subtile de Haut-Bailly ou encore le côté assez impressionnant de Smyssau Lafite.
Je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, Jean-François Fillâtre est entré dans le studio, c'est un Bordelais. Alors évidemment, il écoute Angélique de Langsin avec un œil et une oreille particulièrement gourmande. Un dernier mot sur certaines choses un peu plus hétérogènes.
Alors, non, il y a d'autres appellations. Alors, il y en a une, Saint-Julien est toujours très agréable à goûter en primeur, parce qu'il y a un caractère très souple. Donc là, on a apprécié vraiment la finesse de grain et la fraîcheur de Léoville-Barton, de Talbot, de Gloria. Et puis, c'est vrai qu'à Margaux, souvent dans cette appellation, c'est un petit peu plus hétérogène. Il y a un caractère, cette année, parfois alcooleux sur certains vins. Mais on a quand même apprécié le soyeux d'un Rosan-Séglat, d'un Durfort-Vivens, d'un Château-Cyran. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans une année d'anthologie comme s'annonce 2022, il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Les appellations satellites de Saint-Émilion, notamment, avec des prix évidemment beaucoup plus doux. Je pense à Canon Pécresse, à Canon Fronsac ou à l'Alcé en Côte de Castillon, sont des vins qu'il faut vraiment considérer. C'est vraiment une année où on a beaucoup de choix.
Merci beaucoup. Angélique de Langsin, directrice générale déléguée de Ideal Wine. Ideal Wine, pardon. Et on va dès à présent planifier une dégustation chez Jean-François Fillâtre à Bordeaux. Allez, un petit coup d'œil au marché financier avant de donner la parole à Jean-François.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Quatrième séance de baisse consécutive à la Bourse de Paris, mais, et c'est la bonne nouvelle, la situation est en train de s'améliorer. On ne perd plus que 0,14% sur le CAC, 7243 points. Ce matin, on avait cassé la barre des 7200 points. Du côté des valeurs à la baisse, Téléperformance, moins 2,6%, Carrefour, moins 1,3%. À la hausse, le secteur technologique, notamment STMicro, progresse de 1,3%. La raison de cet intérêt pour la technologie, c'est Nvidia. Publication hier soir aux États-Unis, en transaction hors séance, le titre est déjà en train de s'envoler. On va vous en parler en détail à 11h. Ce sera avec Frédéric Rosier.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. On vient de parler des vins de Bordeaux. Vous allez nous parler d'une chronique à la saveur jus de boudin. C'est ce que vous m'avez envoyé ce matin. Alors, avec notamment le lancement par le gouvernement du plan Avenir pour le climat dans le cadre du projet de loi Industrie Verte.
Ouais, on passe des saveurs et des dégustations d'Angélique, effectivement, au jus de boudin. Oui, effectivement, on a ce texte alors qui m'intéresse parce qu'on s'ennuie quand même grave. Donc, le fait d'avoir une petite nouveauté, ça m'intéresse. Vous savez que l'annonce officielle a été faite par Bruno Le Maire sur le plateau d'Apolline de Malherbe. Et dans la foulée, Bercy nous avait envoyé à nous, journalistes, une petite note. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs d'expliquer un peu à Choupinette comment on bosse. Pour avoir des infos, on reçoit notamment des communiqués de presse, des notes et autres éléments d'information. Après, on les prend comme on veut. Pour certains, on considère que c'est des éléments de langage. Pour d'autres, on considère qu'on les met dans le plateau de la balance de l'information, on les met d'un côté, sachant qu'en recoupant l'info, on peut être aussi amené à mettre d'autres éléments de l'autre côté de la balance.
Et vous, qu'est-ce que vous y avez vu dans cette note ?
Eh bien, une phrase à la fin qui disait « L'objectif est d'aller vers une garantie en capital ». Alors, je me suis dit « L'objectif, c'est quand même bizarre alors qu'on nous parle d'un projet de loi qui va être présenté dans la semaine ». Alors, garantie ou pas, vous savez que depuis longtemps, je dis que la finance n'est pas une science exacte, mais savoir s'il y a une garantie ou pas, et cette absence de visibilité m'a fait penser effectivement au jus de boudin. Alors, je me suis dit, Bibi, la seule façon de t'en sortir, c'est de te palucher le texte de loi. Donc, j'ai appelé Bercy pour leur demander le texte.
Ils vous l'ont donné ?
Absolument pas. Pourquoi ? Parce que le texte, en fait, il n'existe pas. Le texte dans le projet de loi Industrie Verte se réduit au strict minimum, car il n'est pas bouclé, et en pratique, il sera traité sous forme d'amendement. Et puis, il y aura toute une partie qui relèvera de la loi de finances qui sera présentée à l'automne. Bref, tout le monde s'est excité sur un texte qui n'existe pas, car en réalité, nous sommes encore en phase de réflexion.
Ah, donc si on est encore en stade de projet, vous n'allez pas tarder à faire des suggestions.
Alors, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même agréable d'avoir des gens constructifs. Non, alors, avant toute chose, on va faire un point sur l'état des lieux. Point qui date d'hier soir, call avec Bercy, non pas en mode Bercy fait passer une note, mais Bercy répond aux des questions. Alors, avis à Choupinette, ça fait encore, là aussi, partie des méthodes de travail. Et d'ailleurs, Bercy joue plutôt bien le jeu, y compris quand on les prévient que c'est pour passer dans cette chronique qui a vocation à être un coup de gueule. Donc, le premier message de Bercy, c'est de se dire pourquoi on a eu cette idée. Ben, c'est la rencontre, en fait, de deux besoins. Besoin de financement de la transition énergétique, d'une part, et besoin et volonté de la part des parents de préparer l'avenir de leurs enfants d'autre part.
Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos, on va jouer au jeu des devinettes. Première question, la fiscalité.
Alors, a priori, il n'y a pas de débat, ça sera traité dans le projet de loi de finances. Il devrait y avoir une exonération totale de prélèvements sociaux, comme sur le livret A et le LDDS.
La même chose.
Pareil. Exactement, mais en revanche, le produit ressemblera pas du tout au livret A et au LDDS. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits d'épargne bancaire. Bref, vous donnez de l'argent à votre banquier et en contrepartie, on vous attribue un taux. Là, on sera plus proche des plans d'épargne retraite. Bref, la valeur de votre épargne évoluera en fonction de l'évolution des marchés. Et donc là, ça va et ça vient.
Mais il y a cette question de garantie.
Exact. Alors, que dire là-dessus ? Déjà, en partie, on va essayer de comprendre la phrase qui était dans la petite note de Bercy. Alors déjà, il n'y aura pas de garantie de l'État, ça, c'est clair. Le reste, en fait, c'est un peu du jus de boudin. Et pourquoi ? Parce que Bercy a voulu ménager la chèvre et le chou. Alors, la chèvre, c'est quoi ? C'est la volonté de sortir de l'épargne réglementée pour privilégier les rendements de marché. Le chou, c'est la culture de garantie qui est installée en France, notamment dans les produits grand public. Mais ménager la chèvre et le chou, c'est aussi ménager, banquier et assureur. Or, le métier d'un assureur, c'est de proposer des garanties. Et ce n'est pas le rôle d'un banquier. Problème, on veut que le plan Avenir pour le Climat puisse être proposé par les banquiers comme par les assureurs. Bref, on n'a pas trouvé de solution pour proposer une garantie formelle. Donc, on vous dit simplement, eh ben, on va viser une garantie.
Est-ce qu'on sait combien on pourra verser ?
Alors, le ministre Bruno Le Maire a abordé un plafond d'équivalent au livret A, c'est-à-dire 22 950. Le seul hic qu'il y a, c'est que le plafond du livret A, en fait, c'est rien. C'est pas un plafond de versement, c'est pas un plafond d'encours, parce qu'on peut le dépasser avec les intérêts capitalisés. Donc, le plafond du PAC, le plan Avenir pour le Climat, d'ailleurs, vous noterez que cet acronyme est partagé avec la politique agricole commune, bizarre, sera fixé par décret, et j'espère qu'il sera un peu plus clair que le plafond du livret A. Donc, a priori, ça devrait être un plafond de versement.
Mais en France, vous le savez, on adore les acronymes. Donc tout ça, ça va financer l'économie verte.
Ouais, des entreprises qui sont déjà décarbonées, des entreprises qui font des efforts pour se décarboner, et ça se fera via des actions et via des obligations, et a priori avec beaucoup de non-côté.
Alors maintenant qu'on a déterminé les contours, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, première réaction, c'est que ce projet confirme un statut fiscal, c'est l'exonération totale d'absence et de prélèvements sociaux. C'est le régime fiscal en termes d'épargne le plus favorable, à côté des deux autres, on les rappelle, dans les grandes lignes. Un régime qui est exonération d'impôts, mais pas de prélèvements sociaux. C'est par exemple ce que l'on a sur le PEA. Et le troisième autre grand régime, c'est la flat tax pour la majorité des autres placements. Alors, j'ai toujours dit que ce régime fiscal le plus favorable, qu'il soit appliqué à l'épargne de précaution, ça me paraissait une évidence. Qu'il soit appliqué à une épargne jeune me paraît être aussi une évidence, tant les populations âgées ont eu la gentillesse de laisser aux générations futures des monceaux de dettes.
Je vous connais, Jean-François. Il y a forcément un coup de gueule un peu plus incisif.
Ouais, alors vous voulez de la critique ? Un, manque d'ambition. Il est question de drainer 1 milliard par an. Qu'est-ce que ça pèse ? Savez-vous, par exemple, que depuis 2017, la Caisse des dépôts s'est engagée à ce que sur l'argent centralisé sur le LDDS et la Caisse des dépôts, chaque euro centralisé soit investi dans la transition énergétique. Et depuis 2017, 25 milliards de prêts de transition énergétique ont ainsi été effectués, soit un peu plus de 4 milliards par an. Donc pour moi, franchement, le milliard, c'est petit joueur.
Comment est-ce qu'on peut faire plus ?
Ben, soyons clairs, c'est pas les enfants qui vont alimenter ce plan. Bercy pense aux parents et réfléchit d'ailleurs même à un abondement. Moi, en fait, je pense que les actifs, en particulier dans cette phase d'inflation, ils ont bien d'autres choses à faire que ça. Et que de fait, l'argent a plus vocation à venir de la part des grands-parents. Et alors, quand je dis ça, ça donne une perception des choses un peu différente. Bercy, par exemple, prévoit un cas de déblocage en cas de surendettement des parents. Alors, à mon sens, ça pose un certain nombre de questions. Et notamment, est-ce que c'est vraiment l'argent des enfants ou est-ce que c'est le continuum de l'argent des parents, comme ça se passe aujourd'hui, souvent sur le livret des mineurs ? Si je poursuis dans ma logique, est-ce qu'il ne faudrait pas accorder un avantage successoral temporaire, genre abattement de 31 865 euros pour alimenter de tels plans. Et d'ailleurs, ça pourrait être une idée de nouveau plafond.
Ouais, d'autres idées ?
Bon, on peut s'interroger sur la coexistence de ce produit avec le livret A pour les mineurs. Alors, vous savez que la Banque de France, comme Bercy, n'aime pas vraiment l'épargne réglementée et fait tout pour la zigouiller. On l'a bien vu au cours des 10 dernières années avec le PEL. Alors, est-ce que le courage politique, est-ce que c'est de faire du plan Avenir pour le climat un cheval de Troie ou bien d'assumer ses idéaux et d'interdire le livret A pour les mineurs et de mettre pour ce nouveau plan un plafond plus élevé? D'ailleurs, il y a une autre question qui se pose, c'est la possibilité d'ouvrir ce produit jusqu'à l'âge de 18 ans. Personnellement, je pense qu'on pourrait l'ouvrir que jusqu'à 12 ans, sachant qu'à partir de 12 ans, il y a le livret jeune qui existe.
Merci beaucoup Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. On se retrouve tout à l'heure à 11h45 pour les réponses aux questions que nos auditeurs et téléspectateurs nous ont adressées. On est un petit peu en retard, on marque une pause, juste après on fera un point sur l'actu.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.